Et dans le silence qui suivit, il reconstitua la vie de Dobrek. Il le voyait maître de cette liste, usant de son pouvoir, sortant peu à peu de l'ombre, jetant à pleine main l'argent qu'il extorquait à ses victimes, se faisant nommer conseiller général, député, régnant par la menace et par la terreur, impuni, inaccessible, inattaquable, redouté du gouvernement qui aime mieux se soumettre à ses ordres que de lui déclarer la guerre, respecté par les pouvoirs publics, si puissant enfin qu'on avait nommé secrétaire général de la préfecture de police contre tout droit acquis, Praville, pour ce seul motif qu'il haïssait Dobrek d'une haine personnelle. Et vous l'avez revu ?
Je l'ai revu. Il le fallait. Mon mari était mort, mais son honneur demeurait intact. Nul n'avait soupçonné la vérité. Pour défendre tout au moins le nom qu'il me laissait, j'ai accepté une première entrevue avec Dobrek.
Une première, en effet, car il y en a eu d'autres.
Beaucoup d'autres, oui, beaucoup d'autres. Au théâtre, ou certains soirs à Enghien, ou bien à Paris, la nuit. Car j'avais honte de le voir, cet homme, et je ne veux pas qu'on sache. Mais il le fallait. Un devoir plus impérieux que tout me le commandait. Le devoir de venger mon mari.
Elle se pencha sur Lupin, et ardemment.
Oui, la vengeance, ce fut la raison de ma conduite et le souci de toute ma vie. Venger mon mari, venger mon fils perdu, me venger, moi, de tout le mal qu'il m'a fait. Je n'avais plus d'autres rêves, d'autres buts. Je voulais cela, l'écrasement de cet homme, sa misère, ses larmes, comme s'il pouvait encore pleurer, ses sanglots, son désespoir.
Sa mort, interrompit Lupin, qui se souvenait de la scène entre eux dans le bureau de Dobrek.
Non, pas sa mort. J'y ai pensé souvent. J'ai même levé le bras sur lui. Mais à quoi bon? Il a dû prendre ses précautions. Le papier subsisterait. Et puis, ce n'est pas se venger que de tuer. Ma haine allait plus loin. Elle voulait sa perte et sa déchéance. Et pour cela, un seul moyen. Lui arracher ses griffes. Dobrek privé de ce document qui le rend si fort. Dobrek n'existe plus. C'est la ruine immédiate, le naufrage. Et dans quelles conditions lamentables. Voilà ce que j'ai cherché.
Mais Dobrek ne pouvait se méprendre sur vos intentions.
Oh, certes, non. Et ce fut, je vous le jure, d'étranges rendez-vous que les nôtres. Moi, le surveillant, tâchant de deviner derrière ses paroles le secret qu'il cache. Et lui... Lui...
Et lui, dit Lupin, achevant la pensée de Clarisse Mergy, lui, guettant la proie qu'il désire, la femme qu'il n'a jamais cessé d'aimer, et qu'il aime, et qu'il veut de toutes ses forces et de toute sa rage.
Oui.
Duel étrange, en effet, qui opposait l'un à l'autre ces deux êtres que séparaient tant de choses implacables. Comme il fallait que la passion de Dobrek fût effrénée pour qu'il risquât ainsi cette menace perpétuelle de la mort, et qu'il introduisît auprès de lui, dans son intimité, cette femme dont il avait dévasté l'existence. Mais comme il fallait également qu'il se sentît en pleine sécurité.
Et vos recherches aboutirent ?
À quoi ?
Mes recherches furent longtemps infructueuses. Les procédés d'investigation que vous avez suivis, ce que la police a suivi de son côté, moi, des années avant vous, je les ai employés. Et vainement. Je commençais à désespérer quand un jour, en allant chez Dobrek, dans sa villa d'Enghien, je ramassai sous sa table de travail le début d'une lettre chiffonnée et jeté parmi les paperasses d'une corbeille. Ces quelques lignes étaient écrites de sa main, en mauvais anglais. Je pus lire « Évider le cristal à l'intérieur de manière à laisser un vide qu'il soit impossible de soupçonner. » Peut-être n'aurais-je pas attaché à cette phrase toute l'importance qu'elle méritait si Daubrecq, qui se trouvait alors dans le jardin, n'était survenu en courant et ne s'était mis à fouiller la corbeille avec une hâte significative. Il me regarda d'un air soupçonneux. « Il y avait là une lettre, » me dit-il. Je fis semblant de ne pas comprendre et il n'insista point, mais son agitation ne m'avait pas échappé et je dirigeai mes recherches dans le même sens. C'est ainsi qu'un mois après, je découvris au milieu des cendres de la cheminée du salon la moitié d'une facture anglaise. John Howard, verrier à Stourbridge, avait fourni au député Daubrecq un flacon de cristal conforme au modèle. Le mot « cristal » me frappa. Je partis pour Stourbridge, je soudoyai le contremaître de la verrerie et j'appris que le bouchon de ce flacon, d'après la formule même de la commande, avait été évidé intérieurement, de manière à laisser un vide qu'il fut impossible de soupçonner.
Lupin hocha la tête. Le renseignement ne laissait aucun doute. Pourtant, il ne m'a pas semblé que, même sous la couche d'or, et puis la cachette serait bien exiguë.
Exiguë, mais suffisante.
Comment le savez-vous ?
Par Prasville.
Vous le voyez donc ?
Depuis cette époque, oui. Auparavant, mon mari et moi, nous avions cessé toute relation avec lui, à la suite de certains incidents équivoques. Prasville est un homme de moralité plus que douteuse, un ambitieux sans scrupules, et qui certainement a joué dans l'affaire du canal des deux mers un vilain rôle. A-t-il touché ? C'est probable. N'importe. J'avais besoin d'un secours. Il venait d'être nommé secrétaire général de la préfecture. C'est donc lui que je choisis.
Connaissait-il la conduite de votre fils, Gilbert ?
Non. Et j'eus la précaution, justement en raison de la situation qu'il occupe, de lui confirmer, comme à tous nos amis, le départ et la mort de Gilbert. Pour le reste, je lui dis la vérité, c'est-à-dire les motifs qui avaient déterminé le suicide de mon mari et le but de vengeance que je poursuivais. Quand je l'eus mis au courant de mes découvertes, il sauta de joie, et je sentis que sa haine contre Daubrecq n'avait point désarmé. Nous causâmes longtemps, et j'appris de lui que la liste était écrite sur un bout de papier pelure, extrêmement mince, et qui, réduit en une sorte de boulette, pouvait parfaitement tenir dans un espace des plus restreints. Pour lui comme pour moi, il n'y avait pas la moindre hésitation. Nous connaissions la cachette. Il fut entendu que nous agirions chacun de notre côté, tout en correspondant secrètement. Je le mis en rapport avec Clémence, la concierge du square Lamartine, qui m'était tout dévouée.
Mais qu'il était moins à Prasville, car j'ai la preuve qu'elle le trahit.
Maintenant, peut-être. Au début, non. Et les perquisitions de la police furent nombreuses. C'est à ce moment, il y a de cela 10 mois, que Gilbert reparut dans ma vie. Une mère ne cesse pas d'aimer son fils, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il fasse. Et puis, Gilbert a tant de charme. Vous le connaissez. Il pleura, il embrassa mon petit Jacques, son frère. Je pardonnais.
Elle prononça la voix basse, les yeux fixés au sol.
Plaît au ciel que je n'ai pas pardonné. Oh, si cette heure pouvait renaître, comme j'aurais l'affreux courage de le chasser. Mon pauvre enfant, c'est moi qui l'ai perdu. J'aurais eu tous les courages s'il avait été tel que je me l'imaginais et tel qu'il fut longtemps, m'a-t-il dit, marqué par la débauche et par le vice, grossier, déchu. Mais s'il était méconnaissable comme apparence. Au point de vue, comment dirais-je, au point de vue moral, sûrement il y avait une amélioration. Vous l'aviez soutenu, relevé, et quoique son existence me fût odieuse, tout de même il gardait une certaine tenue, quelque chose comme un fond d'honnêteté qui remontait à la surface. Il était gai, insouciant, heureux, et il me parlait de vous avec tant d'affection. »
Elle cherchait ses mots, embarrassée, n'osant trop condamner devant Lupin le genre d'existence qu'avait choisi Gilbert, et cependant ne pouvant en faire l'éloge. Après ?
Après, je le revis souvent. Il venait me voir furtivement, ou bien j'allais le retrouver, et nous nous promenions dans la campagne. C'est ainsi que peu à peu, j'ai été amené à lui raconter notre histoire. Tout de suite, il s'enflamma. Lui aussi voulait venger son père, et en dérobant le bouchon de cristal, se venger lui-même du mal que Daubrecq lui avait fait. Sa première idée, et là-dessus, je dois le dire, il ne varia jamais, fut de s'entendre avec vous.
Eh bien, il fallait...
Oui, je sais, et j'étais du même avis. Par malheur, mon pauvre Gilbert, vous savez comme il est faible, subissait l'influence d'un de ses camarades.
Vaucheray, n'est-ce pas ?
Oui, Vaucheray, une âme trouble, pleine de fiel et d'envie, un ambitieux sournois, un homme de ruse et de ténèbres, et qui avait pris sur mon fils un empire considérable. Gilbert eut le tort de se confier à lui et de lui demander conseil. Tout le mal vient de là. Vaucheray le convainquit, et me convainquit, moi aussi, qu'il valait mieux agir par nous-mêmes. Il étudia l'affaire, en prit la direction, et finalement organisa l'expédition d'Anguin, et, sous votre conduite, le cambriolage de la villa Marie-Thérèse, que Prasville et ses agents n'avaient pu visiter à fond par suite de la surveillance active du domestique Léonard. C'était de la folie. Il fallait ou bien s'abandonner à votre expérience, ou bien vous tenir absolument en dehors du complot, sous peine de malentendus funestes et d'hésitations dangereuses. Mais que voulez-vous ? Vaucheray nous dominait. J'acceptais une entrevue avec Daubrecq au théâtre. Pendant ce temps, l'affaire eut lieu. Quand je rentrai chez moi vers minuit, j'en appris le résultat effroyable. Le meurtre de Léonard, l'arrestation de mon fils. Aussitôt, j'eus l'intuition de l'avenir. L'épouvantable prédiction de Daubrecq se réalisait. C'était les assises, c'était la condamnation. Et cela, par ma faute, par la faute de moi, la mère, qui avait poussé mon fils vers l'abîme, d'où rien ne pouvait plus le tirer.